m'appelle Félix Ducharme. Je suis né ici, à Notre-Dame-des-Lacs, au Québec. Mes parents s'occupaient du magasin général. C'est dans cette maison-là que j'ai grandi. À l'âge de 25 ans, j'ai été visiter ma tante Zelma au lac Saint-Jean. Puis j'en suis revenu avec Marie Coutu, une belle fille de Chicoutimi de 5 ans, ma cadette, que j'ai mariée un beau jour d'été. Ça fait 20 ans de ça. Et puis ce soir, je suis mort.
Mais il y a des survivants ce soir dans le rendez-vous. Et sur France Culture, il sera question de commerce, du Québec, de métal hurlant, de Franck Capra et même de Mulan. Avec Régis Loisel et Jean-Louis Tripp qui signent à quatre mains le scénario et le dessin de leur série Magasin Général. Alors on arrive à la fin de cette saga québécoise. 9e épisode pour cette communauté rurale dans les années 20 qui annonce la révolution tranquille des années 60. Benoît Lagane.
Et à l'occasion de la fermeture de leur Magasin Général, retour avec Loisel et Tripp sur un roman graphique populaire ou comment appliquer à l'émancipation québécoise l'esprit de Franck Capra.
19h30, la session live du vendredi ce soir, Univers Nino avec Denis Colin et Ornette, toujours Benoît.
Oui, une session reprise de Nino Ferrer avec une chanson d'Univers Nino, Désabusion. Nous l'avions enregistrée durant les balances, c'était dans notre studio en septembre dernier.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture présenté cette semaine par Émilie Chaudet. Émilie Chaudet, bonsoir.
Bonsoir Laurent et bonsoir à tous. On commence ce journal avec le son du jour.
Tu ferais bien de penser à l'histoire de Zoé, qui n'était pas plus malhonnête qu'une autre.
Moi, je vois pas quel rapport cette histoire, que d'ailleurs je connais pas, moi, peut avoir.
Tu la connais pas? Elle est pas drôle, tu sais. Zoé, c'était une petite fille très jolie, très coquette, mais qui ne pensait pas à mal. Non. Elle travaillait à la fabrique d'allumettes. Tiens, je la vois encore quand elle passait le matin devant le bar, toute bravette, sous son grand chapeau de paille, là. Elle avait une espèce de charme. Tous les hommes la regardaient. Elle souriait à tous, mais elle restait sage comme une image.
Petite consolation pour ceux qui attendaient une Zoé à ce micro, tout va bien, elle revient dès lundi prochain. En attendant, ce que vous venez d'entendre, c'est la voix très reconnaissable de Rému, l'acteur fétiche de Marcel Pagnol, ici avec Pierre Fresnay dans Marius. Marius qui, avec Fanny et César, sera à nouveau projeté au cinéma dans le courant de l'année 2015 pour les 120 ans de la naissance du cinéaste. Et pour l'occasion, son petit-fils Nicolas Pagnol vient de lancer un appel sur le site de financement participatif Ulule pour aider à la restauration de la trilogie marseillaise des années 30, parce que comme il l'explique sur la page web du projet de financement, les pellicules sont en très mauvais état et même si la Cinémathèque française, le CNC, le Fonds culturel franco-américain et la chaîne de télé Arte mettent déjà la main à la poche, eh bien il manque encore 50 000 euros par film pour mener ce projet à bout. Projet qui a déjà récolté presque la moitié de cette somme auprès des internautes en l'espace de quelques jours. Et toute cette semaine dans le journal de la culture, un tour d'horizon culturel chez nos voisins européens, ou comment ceux qui font vivre la culture tentent de se mobiliser contre les politiques d'austérité. Et on commence aujourd'hui par la Belgique, puisque la nouvelle est encore récente et difficile à digérer pour certaines troupes de danse. Il y a presque deux semaines, le directeur du théâtre de la Monnaie, Pieter de Caluët, a décidé de supprimer toute sa programmation danse à cause des coupes drastiques dans les budgets des institutions gérées directement par le gouvernement. En gros, ce théâtre national, l'équivalent chez nous du théâtre de la ville a perdu pour cette année 2 millions d'euros et en perdra donc 7 millions ces 10 prochaines années. Golden Hours de Anne-Thérèse Kersmaker et Babel de Sidi Larbi et Cherkaoui qui devaient s'y jouer ces prochains mois sont donc annulés. Pour ces deux figures de la danse en Belgique, ça passe évidemment très mal. Frédéric Verroteux, le directeur général de Rosas, la compagnie d'Anne-Thérèse Kersmaker, n'a pas souhaité réagir à l'antenne mais m'a tout de même précisé que cette décision du Théâtre de la Monnaie s'était faite sans concertation avec les chorégraphes concernés. Même constat d'incompréhension et d'amertume pour Michel Utterhoven, le directeur de la compagnie Eastman de Sidi Larbi Cherkaoui.
On savait qu'il y avait de la tempête dans l'air, mais quand même, c'est un très grand choc pour toute la communauté de danse en Belgique. Il y a 5 ans, la première production d'Eastman et de Larbi pour Eastman était Babel, une coproduction avec la Monnaie, qui a ensuite tourné dans le monde entier. Donc c'est la fin provisoire, on espère, d'une très longue histoire. Pas si longue comme pour Rosas, mais quand même une histoire de 5 ans.
La compagnie Eastman pense trouver refuge dans un autre théâtre pour la représentation de Babel au printemps ou à l'été prochain, au Hall de Schaerbeek, juste à côté de Bruxelles. Et la compagnie Rosas se produira, elle, au Kai Theater, autre institution qui coproduisait souvent des spectacles de danse avec la Monnaie. Mission rendue un peu difficile aujourd'hui, comme l'explique son directeur Guy Kuypens.
on va essayer de reprendre le plus possible les spectacles de Rosa chez nous, mais les grandes productions d'Interesa, on ne peut pas les présenter au CAI, ils sont physiquement trop grandes et dans certains cas aussi financièrement trop importantes. Nous sommes, et ça c'est une différence importante avec la monnaie, nous ne sommes pas une institution qui produise, mais qui présente le travail des compagnies. Pour, par exemple, Rosas, ça ne serait pas un accord pareil que l'accord ils ont avec la monnaie en tant que coproducteur. Ça, ce n'est pas possible pour le CAI. Donc, on va réagir le plus possible, mais nous avons des limites et nous ne sommes pas une institution comme la monnaie.
Les institutions et compagnies flamandes subissent, elles, ces coupes depuis presque 7 ans. C'est le cas des ballets Cédelabé de la compagnie d'Alain Platel. Son directeur, Liven Thirion, déplore la poursuite de cette dégradation au niveau national.
Seule peur que Platel et moi on a, c'est que la danse va devenir le canard boiteux de la culture. Alors, soyons très clairs, ce que nous on a fait, on vient de nous couper 7% de nos moyens, de nos subventions. Moi, ça a été clair tout de suite. J'ai pris l'avion et les trains nécessaires pour retrouver cet argent qui était budgété, que je devais avoir en France et vers l'Allemagne. Je l'ai retrouvé, pas tout de suite, mais en travaillant très clairement avec mes collègues, avec mes coproducteurs de toujours. Voilà, on a résolu le problème entre nous. Une compagnie comme la compagnie Platel, elle ne pourrait jamais, au grand jamais, survivre en Flandre, ou seulement en Flandre. C'est impossible.
Liven Thirion qui regrette aussi que l'ensemble des chorégraphes belges ne se mobilisent pas plus contre ce type de mesure, mais la RAC, la Réunion des auteurs chorégraphes de Belgique, a précisé qu'elle mènerait des actions au Théâtre de la Monnaie et au ministère de la Culture dès la rentrée. Et ailleurs dans le monde de la culture, la plateforme YouTube menacée de procès, une quarantaine d'artistes réclament 3 milliards d'euros à la plateforme de vidéos en ligne au nom du respect de leurs droits d'auteur. Parmi eux, Pharrell Williams, le groupe The Eagles ou encore les ayants droit de John Lennon qui précise qu'une licence de diffusion n'a pas été établie avec YouTube. Plus de parutions de BD mais moins de tirages. Le rapport annuel de l'association des critiques de bande dessinée publié aujourd'hui montre que la production de BD a augmenté de presque 5% cette année. Ça représente presque 1500 nouveautés. En revanche, les ventes ont légèrement chuté de 0,7%. On apprend également dans ce rapport que 1411 auteurs réussissent encore à vivre de la création de BD en France. Et puis l'Argentine a perdu l'un de ses joueurs mythiques de bande de néon, Leopoldo Federico, également chef d'orchestre. Il est mort hier soir à l'âge de 87 ans à Buenos Aires. Il avait monté des spectacles avec les plus grandes stars du tango et avait été nominé 2 fois pour les Grammy Awards d'Amérique latine. Et la dernière, c'est une histoire peu radiophonique et heureusement puisqu'il s'agit d'une odeur peu agréable, celle de la mort. C'est Famous Death, mort célèbre en anglais, l'installation un peu folle et un peu glauque d'un professeur de communication hollandais, Frédéric Duernic, qui s'est demandé quelles odeurs on pouvait bien sentir sur le lieu d'une mort célèbre. Il a donc mis au point 4 cercueils vides qu'il a présentés lors d'une conférence aux Pays-Bas et qui représentent la mort de Lady Diana, de Whitney Houston, de John Fitzgerald Kennedy et de Muammar Kadhafi. Ces cercueils sont reliés à un dispositif sonore et olfactif. On sent des odeurs d'eau de Javel et de cannabis dans la chambre d'hôtel de la chanteuse morte d'une overdose. On sent également le parfum que portait Jackie Kennedy dans la voiture du président américain. Alors pourquoi s'infliger ça? Les chercheurs qui ont travaillé avec Frédéric Duernic disent avoir travaillé à une nouvelle manière de raconter un événement. L'installation devrait être prochainement visible en Allemagne et en Autriche. Très bonne soirée à l'écoute de France Culture. Tout de suite, vous retrouvez Laurent Goumard pour un rendez-vous aux accents québécois avec Régis Loisel et Jean-Louis Tripp.
Le rendez-vous.
Swing la bacaisse dans le fond de la boîte à bois.
Plateau, Benoît.
Swing la bacaisse.
Ça veut dire quoi?
Alors, on va demander à nos invités. Swing la bacaisse.
Ça veut dire quoi, Régis Loisel et Jean-Louis Tripp? Ça veut dire
quoi? Ça veut dire envoie la grosse dame. La bacaisse, c'est une grosse dame. Swing, c'est l'envoyer.
Ça plante le décor. Avec vous donc, Régis Loisel et Jean-Louis Tripp, vous êtes tous les deux les auteurs, scénaristes et dessinateurs de bandes dessinées. Régis Loisel, on vous doit notamment les magnifiques séries Peter Pan ou encore La quête de l'oiseau du temps. Jean-Louis Tripp, vous êtes un ancien de Métal Hurlant, Futuropolis, professeur de bande dessinée à l'Université au Québec, sculpteur aussi, on reviendra sur tout ça, mais vous menez tous les deux une œuvre commune, Magasin Général, votre saga rurale québécoise, on en est au 9e et dernier tome, c'est aux éditions Casterman. D'abord, dans quel cadre, avant de rentrer dans la bande dessinée, dans quel cadre vous vous rencontrez pour la première fois? C'est à Métal Hurlant, Régis Loisel?
C'est Max Cabane qui nous a présenté en 1978, je ne me rappelle plus où c'était, Angoulême peut-être.
C'est possible. je ne me rappelle plus, ça fait quand même loin.
Et à quel moment vous décidez de travailler ensemble?
En 2004.
Oui, 2004, oui.
Vous êtes tous les deux Français à venir vous installer au Québec pour enseigner et produire vos bandes dessinées. Pour quelles raisons avez-vous choisi le Québec?
Disons que je vais parler le premier parce que je suis arrivé le premier, un an avant lui. Non, j'étais dans une perspective de déménagement, pardon. Et j'habitais en Touraine à ce moment-là. Et puis, sur ces entrefaits, j'ai un ami qui m'a appelé, qui habitait lui au Québec. Et tout bêtement, je lui ai demandé comment on vivait là-bas. Donc, il a été dithyrambique sur le sujet. Puis, lors d'une visite chez mon éditeur, j'en ai profité pour passer à l'ambassade. J'ai pris des papiers et puis, de fil en aiguille, je suis arrivé là-bas.
Et vous, Jean-Louis Tripp?
Et moi, j'ai une longue histoire avec le Québec qui commence en fait dans les années 70, quand j'étais adolescent, et que les chansons québécoises en joie de Charlebois et de Beaudommage, notamment, ont commencé à arriver sur les ondes de France Inter, que j'écoutais à l'époque, Studio de Nuit, etc. etc. Puis c'était, je me suis construit une image du Québec très, très curieuse à travers cette langue que je comprenais à moitié. Et puis, donc, du coup, j'ai commencé à faire des voyages régulièrement au Québec à partir des années 80. Et puis, finalement, j'ai retrouvé Régis au cours d'un de ses voyages. Et Régis m'a appris que l'Université du Québec en Outaouais cherchait un auteur pour enseigner ce qu'on pourrait appeler l'équivalent d'une licence. Quoi. Là-bas, c'est un bac, mais une licence, 3 ans après la fin des études secondaires. J'ai postulé et voilà, j'ai été recruté. Donc, j'enseignais à l'université et je partageais l'atelier de Régis à ce moment-là. Et c'est comme ça que l'idée de Magasin Général est née.
Quelle place pour la bande dessinée dans la culture québécoise, Régis Loisel?
Disons que... Il y a une douzaine ou une quinzaine d'années, c'était pas, on ne peut pas dire qu'il y avait une grosse culture bande dessinée. Il y avait surtout des bandes dessinées qui venaient d'Europe, enfin notamment de France. Mais il y avait quelques petits noyaux par-ci, par-là. Je ne sais pas si la pastèque...
Il y avait Mécanique Générale qui était écrit par Jimmy Beaulieu. Mais moi, je me souviens que quand je suis arrivé, c'est-à-dire il y a pratiquement 12 ans, 11 ans et demi, il y avait les tout premiers albums de Mécanique Générale, c'est tout. Le reste, c'était que des fanzines, il n'y avait pratiquement pas de production.
Et aujourd'hui, on en est où?
Oui, aujourd'hui, ça commence à... Il y a quand même de pas mal de choses qui sortent, quoi, avec des petits labels, des petits éditeurs. Bon, c'est vrai que là-bas, c'est pas une... Il n'y a pas une grosse aura sur la bande dessinée parce que le pays est très vaste et puis qu'on ne peut pas dire que le Québécois est vraiment amateur de bande dessinée.
Jean-Louis Tripp?
Il y a quand même deux éditeurs qui ont fait un travail de défricheur qui sont Mécanique Générale, je le disais, puis La Pastèque. La Pastèque édite aujourd'hui, entre autres, Michel Rabagliati pour sa série Paul, qui marche très très bien. Et puis il y a eu aussi le succès de Guy Delisle, qui lui est un Québécois exilé en France, mais qui est revenu après son prix Angoulême, auréolé de laurier.
Le retour de l'enfant prodigue.
Exactement. Ouais, et puis, il y a également Les Nombrils qui sont une série faite par des Québécois, par Delaf et Dubuc, qui marche très bien chez Spirou, et Magasin Général aussi. Puis ça fait des locomotives qui tirent quand même un petit peu le... Et il y a beaucoup aujourd'hui d'auteurs québécois qui travaillent chez des éditeurs français, et on ne sait pas qu'ils sont québécois, parce qu'ils font des séries qui ne sont pas typiquement québécoises.
Très bien, mais revenons tout de suite à la série.
Oui, donc Magasin Général, c'est un roman graphique sur l'émancipation de la communauté d'un village du Québec, Notre-Dame-des-Lacs. On est dans les années 20. Marie, jeune veuve, reprend la direction du magasin, qui est le lieu de vie central de la communauté, un lieu qui va connaître pendant un an et demi une révolution pas si tranquille, puisqu'avec cette succession, la propriétaire va s'émanciper, ce qui va avoir des conséquences sur la communauté. Bref, vous racontez une sorte de préhistoire de la révolution tranquille qui aura lieu dans les années 60. Une révolution qui a modifié la société québécoise, hein, auparavant tenue par les prêtres. Si vous aviez situé dans les années 50 et 60 Magasin Général, vous auriez sans doute gagné en véracité historique, mais qu'est-ce que cela ne vous permettait pas, justement, Régis Loisel?
Pour avoir choisi donc de l'installer 40 ans auparavant.
Oh, alors là, c'est évident que ça aurait complètement changé, quoi. D'abord, le village n'aurait pas été isolé comme il est isolé dans les années 20, c'est-à-dire qu'il y a eu l'apport de l'électricité, de la radio, de la télé, tout ce genre de choses, la voiture aussi.
Les années 60, oui.
Donc en fait, ça aurait changé complètement la dynamique du récit, quoi. Alors évidemment, je pense qu'au niveau sociopolitique ou religieux, c'est vrai que c'est à partir des années 60 que les choses ont commencé à bouger au Québec. Alors je ne sais pas si, Jean-Louis est plus apte à répondre, je ne sais pas si dans les petits villages, on était encore, si on avait pris conscience de ça. Parce que je sais que ça a démarré plutôt
à Montréal.
Montréal, quoi.
Oui, parce que là, on est dans les années 20, dans un petit village. Vous évoquez un prêtre qui a une crise de vocation, des femmes qui veulent se libérer, un homme qui assume son homosexualité, ce qui ne correspondait pas véritablement à la réalité sociologique de l'époque.
Bien sûr, pas du tout. Non, ce qu'on voulait, c'était avoir un laboratoire. Donc, ce petit village, au début, on pensait le faire dans les années 40. Mais dans les années 40, on s'est rendu compte que l'électrification des villages allait amener la radio et qu'en plus, c'était la guerre en Europe. Et donc, ça allait venir parasiter complètement le récit parce que c'était impossible d'échapper aux nouvelles de la guerre, etc. Puis non, ce n'est pas notre propos. Notre propos, c'était d'étudier cette petite communauté très fermée, très autarcique comme ça, et de voir qu'est-ce qui se passait si on mettait une petite goutte d'un produit hétérogène comme ça, qui est ce personnage de Serge qui débarque là-dedans, mais qui lui est un Montréalais éduqué, qui a fait la guerre en Europe, la première guerre évidemment en Europe, puis qui est resté pendant plusieurs années en Europe et donc qui est complètement atypique, cultivé beaucoup plus que ne l'était. Ben, est-ce qu'ils n'étaient pas cultivés? Ils étaient même, ils savaient lire des fois, mais même pas toujours. Donc lui, il arrive là-dedans et son arrivée agit comme le premier domino qui tombe, vous savez, sur ces séries de trucs. Et puis voilà, ça entraîne tout un mouvement. Et pour ça, on avait besoin de pouvoir observer comme avec un microscope un milieu fermé, quoi.
Comment votre œuvre, cette saga donc québécoise, est-elle perçue là-bas, notamment par les historiens ? Régis Loisel.
Écoutez, il y a plutôt un bon accueil. Hein. C'est sûr que... En fait, pourquoi elle a bien été accueillie, c'est par rapport au langage qu'on a utilisé dans le premier album. Alors évidemment, on ne pouvait pas perdre le lectorat français, à savoir le faire complètement québécois, ce qui n'est pas toujours évident à comprendre. Et on ne pouvait pas non plus être trop français, dans la langue de Molière. Donc,
pour exaspérer les
Québécois.
Voilà.
Et alors donc, pour ça, on s'est adjoint les services d'un auteur,
Jimmy Beaulieu,
oui.
Qui, lui, a réadapté nos dialogues qui étaient français au départ, avec quelquefois des tentatives de Québécois qui redressaient au fur et à mesure. Et il nous disait, ben non, là, on ne peut pas le dire comme ça, on va le dire comme ça. Donc ça a amené une petite touche dans la couleur de ces albums, c'est-à-dire c'est l'expression de la langue québécoise.
Benoît.
Alors le point de départ de cette aventure commune, c'est vous qui l'avez initié, Jean-Louis Tripe. En 2005, vous partagez l'atelier donc de Régis Loisel à Montréal et vous lui proposez d'écrire et de dessiner ensemble cette œuvre en évoquant la figure de Frank Capra. Alors comment déjà fonctionne cette référence pour vous? Parce que c'est vous le premier, je crois, qui citait Frank Capra. Mais...
On a eu une discussion, j'étais en train de dessiner un album à ce moment-là qui s'appelle toujours Parole d'Ange, qui est paru chez Glénat. Et dans Parole d'Ange, j'adore l'univers de Capra, Régis aussi, mais je ne le savais pas parce qu'on n'avait pas parlé de ça. Et donc, je faisais un moment référence à ce que j'avais voulu faire dans le ton de Parole d'Ange, c'est-à-dire cette espèce de tendresse comme ça pour les personnages, en disant Frank Capra. Et comme on était en train de chercher à ce moment-là, on avait déjà eu l'idée de faire un album à ce qu'on appelle à quatre mains. En réalité, c'est deux mains qui travaillent. De main droite. Et donc, on était en train de chercher un scénario. Et là, on avait un problème parce que toutes les idées que j'avais étaient des idées très contemporaines que Régis ne voulait pas faire parce que ce n'est pas son univers. Il ne voulait pas dessiner des villes modernes avec des voitures, des bâtiments, etc. Et lui, il me proposait que des histoires avec des bestioles volantes et des trucs oniriques. Et ce n'était pas du tout pour moi, quoi. Donc, on était un peu coincés. Et puis, un jour, au cours de cette conversation, tout d'un coup, le nom de Frank Capra fuse comme ça. Et là, Régis fait un double looping arrière et me dit, mais Frank Capra, comment j'ai pas pensé plus tôt, j'ai écrit une petite un synopsis, enfin une intention, il y a quelques années.
Qui s'appelait À la Capra.
Mon éditeur, Vent d'Ouest, je lui avais raconté.
Régis Loisel.
Je lui avais raconté l'idée de cette histoire. Et il me dit, oh, c'est super, moi je veux le faire avec toi. Je lui dis, bah oui, on se calme, on verra. Moi j'étais en train de finir Peter Pan. Et donc, comme il était très enthousiaste à l'idée de faire cette histoire, il m'a tout de suite établi un contrat. Et comme il n'y avait pas de titre à cette histoire, il avait noté, j'ai toujours conservé ce contrat d'ailleurs, À la Capra. Donc,
et qu'est-ce que vous y racontiez pour que ce soit
À la Capra ? C'était un peu le même thème. C'est pour ça que ça se passait en France. C'était l'histoire d'un petit village perdu au fond de la vallée, hein, comme dans la chanson de Piaf, qui était coincé entre les années 30 et 50. Donc, c'était un petit peu intemporel. Et c'était un couple qui tenait le bougnat charbon buvette et etc. Donc un peu
une sorte de magasin général.
Une sorte de magasin général français. Et puis ben, il y avait toute une petite communauté, le curé, il y avait un espèce de vieil anard là qui construisait sur une mare à canard sur un bateau. Enfin il y avait toute une pléthore de personnages, mais qui à travers magasin général se sont beaucoup plus étoffés. Et puis voilà, donc c'était le terme du plaisir, du don de soi, etc., etc. Et effectivement, le mari de cette Marie, donc, venait à mourir. Et puis l'histoire commençait comme ça, quoi. Donc
Marie, on retrouve le synopsis de
oui, oui, ça, c'était ça. C'est ce qui a plu à Jean-Louis parce que avec un thème pareil, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, quoi.
Juste une question par rapport au monde contemporain que vous n'aimez pas dessiner. Qu'est-ce qui se passe avec le monde contemporain, les voitures, les immeubles?
Non, parce que
quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout.
Pas du tout, parce qu'on est obligé de prendre la documentation. Et ça, j'ai horreur de prendre la documentation.
C'est vrai.
Il a fallu quand même que j'en prenne
un
peu pour magasin général. Mais c'est une documentation qui est beaucoup plus agréable à faire ou à dessiner. À savoir des vieux tacos, des vêtements des années 20. Il y avait toutes sortes de choses qui étaient complètement différentes de notre monde actuel.
Est-ce qu'il y a quelque chose précisément que vous n'aimez pas dessiner? La question est pour vous deux.
Ah, moi, les animaux, alors je déteste dessiner les animaux. Et là, ça en est farci, donc ça a été la partie. Moi, bon, je m'y suis mis à un moment donné.
Les ours et les oies, donc.
Mais tous les animaux. Moi, j'ai fait dans des livres pour enfants dans le passé dans lesquels je dessinais des animaux. Ils étaient toujours habillés. Comme ça, j'avais pas mal. Non, je déteste ça, les animaux.
Ah, et moi, vous, Régis Loisel?
Moi, ce sont les pieds et les chaussures. Je déteste ça.
Moi, je sais bien le faire.
Mais vous êtes vraiment très complémentaire.
Ah, bah, voilà, quoi.
Les pieds et les chaussures.
Ouais, ah, oui. Ouais. Et puis le monde contemporain.
Ouais, ça, on avait bien compris.
Voilà. Mais le monde moderne, hein, si je peux très, très bien raconter une histoire.
De science-fiction.
Non, ah non, pas du tout. Non, je suis pas du tout science-fiction.
Alors, heroic fantasy, ouais, plutôt.
Mais je peux très bien raconter un polar ou je sais pas, je l'ai pas fait encore, mais je peux très bien raconter une histoire qui se passe aujourd'hui. Mais ça va être dans un quartier un peu glauque. Voilà, il faut qu'il y ait cette couleur un peu de mystère, un peu noir, un peu crade. Mais le côté clinquant, rectiligne des immeubles et des voitures, et ça m'intéresse pas, quoi.
Alors, pour retrouver l'esprit de Frank Capra, comment cela pouvait se traduire graphiquement, l'univers de Frank Capra?
Alors, déjà, moi, je suis intervenu, je vais répondre à la question d'avant, c'est parce que dès que Régis m'a proposé ce scénario-là, je suis intervenu, moi, sur deux points, essentiellement. Le premier, c'était de lui proposer que ça se passe au Québec, parce que c'était essentiel, hein, c'est bon. Et enfin, c'était essentiel, c'était très important pour moi, et on trouvait que ça a bien collé avec le genre d'univers dont on voulait parler. Et puis, l'autre chose, c'est que Régis, son idée était de faire un roman de la liberté, d'assumer une liberté. Et moi, je voulais plutôt faire un roman de l'émancipation. Voilà. Donc, on a réussi à trouver une façon de faire coïncider les deux. Et graphiquement, je pense que le travail auquel je me suis livré à partir du travail de Régis est en fait une transposition de code graphique. C'est-à-dire que ce qui fait le style d'un dessinateur, c'est la façon dont il dessine les yeux, les cheveux, je sais pas, les vêtements, les plis des vêtements, voilà.
Les chaussures.
Tout, les chaussures, voilà. Et donc, Régis n'a pas du tout les mêmes codes graphiques que moi. Il a un dessin qui est beaucoup plus structuré, dynamique, plus anguleux, comme ça, plus fort. C'est un dessin assez puissant. Alors que moi, j'ai un dessin qui est beaucoup plus en rondeur, en douceur. Voilà. Donc, quand je reprenais son dessin, c'est-à-dire en décalquant sa planche...
Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que d'abord, les dessins, c'est vous, Régis Loisel.
Oui, moi, je fais la mise en scène et les dessins.
La mise en scène et les dessins. Et vous intervenez ensuite.
C'est-à-dire que donc on écrit un scénario ensemble. Ouais. À partir de ça, Régis commence à partir de la page blanche. Hein, il fait la mise en scène, effectivement. Et puis, à un moment donné, il s'arrête. Et moi, je prends sa planche, je la décalque. Au moment où je la décalque, je modifie, hein, puisque je ne dessine pas les personnages comme lui, mais je m'appuie sur sa composition d'image, évidemment. Je reprends sa composition et sa mise en scène. Et à partir de là, je retraite les personnages dans mon style à moi. Complètement. C'est pour ça que le dessin final qu'on voit n'est ni le sien ni le mien, mais une espèce de dessinateur virtuel. Voilà. Et donc, dans cette histoire de Frank Capra, il y a ce mélange de nous deux qui a toujours tendu dans cette direction-là. C'est-à-dire que la façon dont l'histoire est mise en scène et dont moi je la retravaille, si vous voulez, avec les lumières, affiner les expressions de visage, etc., le jeu d'acteur, le travail sur le jeu d'acteur qui est un mélange de nos deux dessins, va dans ce sens de la, comment on pourrait dire ça, d'une certaine douceur, une empathie très forte avec les personnages, voilà.
Donc, si on comprend bien au niveau des rôles, Loisel, vous seriez le réalisateur, vous, Jean-Louis Tripp, le chef opérateur. C'est un peu comme ça que ça fonctionnerait ?
Ça pourrait être comme ça, ouais, mais bon, peut-être...
C'est plus
compliqué.
Vous êtes bien gentil.
Parce qu'on est tous les deux scénaristes.
Oui, ben oui, vous êtes tous les deux scénaristes. Ouais. Ouais. Et il y a un directeur d'acteur, ce n'est pas vous, Régis Loisel.
Si, absolument. Ah oui. C'est un mélange des deux.
Non, parce que si par rapport à mon dessin, il devait changer les attitudes, les expressions, les machins, ça n'aurait plus aucun intérêt pour lui. Et c'est vrai que par moments, il changeait, par exemple, une expression ou un mouvement. Moi, je sais pas, j'avais fait un doigt comme ça, par exemple. Il pouvait enlever le doigt. Ça ne gêne en rien au dessin ni à la narration. Et puis, c'est vrai qu'on des fois, on n'était pas tout à fait d'accord sur le jeu d'acteur entre guillemets, mais c'était ça.
Vous pensez à quoi par exemple?
Bon, je sais pas.
Jean-Louis Tripp.
Moi, je peux dire un truc là-dessus parce que Régis est un metteur en scène extraordinaire. Vraiment,
on a décidé,
mais c'est vrai, tu sais, je le pense. On avait décidé de travailler chacun sur nos forces, hein, évidemment, pas sur nos faiblesses, sur nos forces. Régis, un metteur en scène formidable et c'est un metteur en scène de théâtre, à mon sens. Hein. C'est-à-dire qu'il joue, il fait jouer ses acteurs pour les personnages qui sont au fond de la salle. Il faut que ce soit extrêmement expressif, d'où c'est souvent ces expressions où les personnages parlent avec les mêmes beaucoup, et ils ont une gestuelle très, très affirmée.
D'accord.
Moi, je serais plutôt un metteur en scène de cinéma, dans ce sens, ou un directeur d'acteur de cinéma. Et donc, évidemment, il y a des moments où, quand je voyais un personnage qui parlait avec... deux doigts comme ça dressés pour appuyer son propos, je me disais, bon, là, il y en a un de trop. Et donc, je dans l'intervention que je faisais sur son jeu d'acteur à lui, je calmais un petit peu le jeu. Voilà. De même pour les expressions de visage. Par moments, bon, quand un personnage pleure chez Régis, il pleure. C'est-à-dire qu'il y a des larmes qui...
Oh non, là, il exagère.
Non, mais c'est...
C'est vrai.
C'est vrai. Bon. ce ne sont pas des pleurs. C'est un jeu de théâtre. Hein. C'est-à-dire que ça fonctionne très, très bien. Mais c'est juste... C'est une approche particulière. Et moi, je suis plus en retenue. Je me souviens qu'au début, quand on travaillait sur le scénario, Régis se souvient de l'histoire du pathos. C'est-à-dire que quand on écrivait le scénario, Régis proposait un truc et je lui disais « Ah non, Régis, ça c'est trop pathos, là, je me souviens. » Et donc, il a fallu s'ajuster au début parce que moi, je trouvais que... après, on a trouvé un compromis entre les deux et puis voilà.
Il y a quelque chose aussi qui fait votre signature dans Magasin Général, c'est un travail sur le montage extrêmement intéressant et très cinématographique, Benoît.
Oui, parce que si on prend un exemple, le tome 6, dans une scène très particulière, vous juxtaposez des actions, c'est-à-dire qu'on suit un bûcheron, un des frères La Tulipe, qui part sauver son frère, et parallèlement à ça, sur le dessin, vous collez un dialogue d'une autre scène, d'une scène que l'on ne voit pas.
Qui se passe dans le village.
Voilà. Comment cette forme, justement, de dispositif de montage s'est imposée ?
Et de surimpression, en fait.
Sur les pages de garde des albums, il y a le village qui est dessiné. On voit toute la zone du village. Et bien, cette zone-là, c'est une zone qu'on a essayé de faire vivre avec tous ces personnages. On dirait que c'est une histoire chorale. Hein. Il y a tout un tas de personnages. Et donc, le fait de pouvoir montrer ce qui se passe à un moment donné, à un endroit du village, et en même temps à l'autre, ça contribue à donner cette impression qu'en fait, c'est pas juste le focus sur un endroit. Quoi. C'est que dans ce village, les gens, même ceux qu'on ne voit pas, sont en train de faire des choses. Voilà.
Le rendez-vous, la session.
Tout de suite, l'actualité musicale avant de vous retrouver, Régis Loisel et Jean-Louis Tripp. L'actualité musicale, Nino Ferrer ce soir, Benoît Lagan.
Oui, une session inédite programmée par notre réalisateur Thomas Beau. On retrouve le clarinettiste Denis Collin, la clarinette basse et au chant, et Ornette, au chœur et au piano préparé. On les recevait dans ce studio, le studio 108, le 19 septembre dernier, pour un extrait de leur album Univers Nino, paru chez Crystal Records Harmonia Mundi. Un album dans lequel ils revisitent l'univers musical de Nino Ferrer. On écoute ce soir une version, leur version de Désabusion, c'est à eux.
« à midi. Déjeuner dans son lit, paresseuse, capiteuse, langoureuse, alanguie, elle prend son bain parfumé. Se pomponne les doigts de pied. Elle m'enlace, quelle angoisse. Me voici piégé. Et je suis là comme un con sous son balcon. Comme disait il y a longtemps Claude Nougaron. Et je suis là comme un con sous son balcon, étalé de tout mon long dans une flaque de bourbon.
C'était Denis Colin et Ornette, extrait de leur album Univers Nino. On avait enregistré cette session dans le studio 108 le 19 septembre dernier. Pour les voir en spectacle, il faudra attendre 2015 sur une scène à Fontenay-sous-Bois. Ce sera le 9 janvier.
Le rendez-vous.
J'interdis à quiconque de semer le trouble dans mon camp.
Désolée. Je veux dire, désolé que vous ayez vu ça. Mais vous savez ce que c'est quand il vous vient ces pulsions viriles et qu'on a besoin de faire n'importe quoi. Jardinage, réparation...
Quel est ton nom?
Ah ça oui, j'ai un nom. Ha! Et c'est un vrai nom de garçon. Ping.
Ping?
Oui, mon nom est Ping.
Plateau Monde merveilleux, toujours avec vous Régis Loisel et Jean-Louis Tripp, en plateau qu'on vient d'ouvrir sur un extrait de Mulan de Walt Disney, sur lequel vous aviez travaillé dans les années 90. Quel était votre rôle, Régis Loisel?
Bon, alors quand vous dites travailler, j'ai fait une visite éclair, hein, ça a duré 7 semaines. Donc en fait, je suis resté 15 jours au studio américain. Et c'était formidable pour moi qui ne parle pas un mot d'anglais. Donc, c'était pas mal. Et donc, en fait, j'ai compris que... Parce que je ne comprenais pas pourquoi, quand je suis arrivé dans le studio, il y avait des dessins formidables sur tous les murs. Je comprenais pas pourquoi ils me faisaient venir. Et en fait, ils m'ont expliqué que ce n'était pas forcément le dessin, puisque le dessin, ils ont leur patte à eux, ils ont leur code à eux. Mais c'était surtout mon point de vue sur les choses. Donc, ils m'ont proposé de faire ce qu'ils appellent, eux, du dessin inspirationnel. C'est-à-dire qu'ils me donnent des situations, notamment un exemple, vous êtes dans un marché chinois au XIe siècle, trouvez-nous des situations. Bon, ok, il faut que je trouve des situations. Donc, au début, c'est un petit peu poussif. Et puis après, ben, on se dit, tiens, moi, je joue souvent avec ça. Par exemple, on parlait tout à l'heure des animaux.
Les fameux animaux.
Où j'ai fait un petit cochon comme ça qui se baladait parce qu'il y avait des cochons un peu partout. Et puis ben, après, j'ai réutilisé le point de vue du cochon, ce qui se passait, etc. etc. Et donc, ça a commencé à nourrir un petit peu toute cette... inspiration pour les autres animateurs. Et donc, j'ai fait, je crois, une quantité de dessins. Et ensuite, ils affichent ces dessins dans les couloirs des studios.
Des studios, ouais.
Et donc, tous les animateurs qui viennent, regardent tout ce qui se passe au niveau de ces dessins. Alors, soit ils trouvent une idée, soit ils prennent pas. Donc, moi, ils n'ont rien pris, hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Ils n'ont quasiment rien pris. Mais ceci dit, ils étaient enchantés. Ces dessins sont partis dans le studio en Floride après. Et ils m'ont appelé. Ils voulaient, à ce moment-là, que je travaille sur Tarzan. Alors, j'aurais dit, moi, je voulais pas mettre le doigt là-dedans. Moi, je voulais...
Tu parlais des pieds dessinés, l'enfer.
J'aurais peut-être appris, là. Hein. Et non, je leur ai dit que je ne pouvais pas parce que j'étais sur autre chose, notamment sur Peter Pan. Et ils m'ont appelé 2 ans après pour travailler sur Atlantis. Et là, j'étais monté d'un cran. Ils m'avaient demandé de faire tous les caractères des personnages. Et effectivement, j'ai fait tous les caractères des personnages et ils n'ont rien pris. Voilà, mais j'étais très content. Donc en fait, chez Disney, pour en finir avec ça, on fait appel à vous, mais vous n'êtes qu'un outil. C'est tout. Donc, ils vous payent en tant qu'outil. J'étais le marteau ou la tenaille, je ne sais pas. Mais voilà, ça sert à ça.
Et qu'est-ce que vous avez gardé cette expérience pour la suite de vos projets, de vos propres projets? Est-ce que ça vous a appris quelque chose, Régis Lozel?
Non. Non, sincèrement, non. Parce que je n'ai pas eu le temps. Comme je vous dis, je suis resté 7 semaines pour un projet et 7 semaines pour l'autre. Et puis encore, le deuxième projet, j'ai travaillé chez moi. Donc, vous voyez, je n'étais pas... Mais ce qui, moi, m'avait fait plaisir, je retrouvais un rêve d'enfant. J'ai toujours rêvé de travailler pour Disney quand j'étais gamin. Et là, je me suis retrouvé dans les studios. Il y restait encore trois vieux de la vieille. Il y avait Mark Davis, celui qui animait le Capitaine Crochet et la Fée Clochette, je crois. Et puis, bien d'autres choses, évidemment. Il y avait un vieux de la vieille qui avait déjà, à cette époque-là, 89 ans, qui était toujours dans les studio qui s'appelait Joe Grant et qui avait fait le design de la sorcière de Blanche-Neige. Donc vous voyez, c'était vieux.
Ouais.
Et puis un autre type qui avait fait Jiminy Cricket qui s'appelle Howard Kimball. Et j'ai pu les voir.
Walt Disney, aussi une référence pour vous?
Ah, pas du trip tout.
Non, pas du tout.
Alors, moi, c'est pas mon école du tout.
Ah, tu parles des animaux, en veux-tu en voir? Alors,
moi, pas du tout.
Mais par ailleurs, vous avez eu une expérience au cinéma. Vous avez notamment signé le storyboard de l'adaptation de Jean-Claude Tergal de Tronché. Comment vous aviez abordé cette expérience de storyboarder, Jean-Louis Tripp?
Moi, j'ai arrêté de faire de la bande dessinée au début des années 90 parce que j'étais un peu épuisé de l'alignement des cases et j'avais envie de faire de la peinture et de la sculpture notamment. Et puis, j'ai arrêté pendant 12 ans.
Ah oui, quand même.
Au cours de ces 12 ans, à un moment donné, j'ai recommencé à avoir envie de faire de la bande dessinée, mais je ne savais plus comment raconter une histoire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à être appelé pour faire des storyboards. Avant de faire le nouveau Jean-Claude, j'ai fait plusieurs autres longs métrages. Et le fait de travailler avec un réalisateur m'a remis dans quelque chose de narratif. En fait, je ne pensais plus qu'en termes de forme et de couleur. J'arrivais plus à penser en termes narratifs. Là, j'ai recollé à la narration avec ça. Puis surtout, ça m'a amené une chose qui a été... Moi, j'avais un dessin dans les années 80 qui était un dessin dans la mouvance de la ligne claire, donc très rigide, très carré comme ça. Enfin, rond, mais rigide. Et là, avec le storyboard, comme il faut faire beaucoup de dessins très, très vite, j'ai appris à avancer, à pas trop me poser de questions, à avoir un truc plus rapide, plus simple. Et ça a été très, très bien pour moi. Vraiment.
Régis Loisel, vous aussi, vous avez travaillé le storyboard et même le décor de film Le Petit Poucet d'Olivier Dahan. Vous avez pensé, vous deux d'ailleurs, la question est pour vous deux, à la réalisation d'un long métrage d'animation. C'est quelque chose qui a pu vous intéresser?
Alors, j'ai juste rectifié, j'ai travaillé sur une longue séquence sur le petit poussé. J'ai travaillé sur certains éléments de costume, mais j'ai à aucun moment...
Pas le décor, non,
absolument pas. Et en fait, moi, j'ai travaillé surtout sur un storyboard pour motiver les producteurs à rentrer dans la course. Vous voyez, donc moi, j'ai fait un peu le packaging pour que ça me dise, ah tiens, ça ressemble à quelque chose. Et évidemment, de tout ce que j'ai fait, il n'en est rien resté.
Mais ils étaient enchantés.
Mais oui, ils étaient enchantés. Oui, formidable.
Et donc, pensez à la réalisation d'un long métrage d'animation, c'est quelque chose
d'animation, non, je pense que c'est trop compliqué.
Et de votre côté, Jean-Louis Tripp, passez à la réalisation.
Mais moi, j'ai rêvé pendant un moment que Magasin Général soit adapté en dessin animé. Et pas au cinéma, mais plutôt en dessin animé. Je voyais un truc en 3D pour pouvoir garder ce que... J'ai peur qu'on perde au cinéma. Il y a un projet, alors donc, il est possible que ça se fasse un jour, de film, je veux dire. Et j'ai très, très peur qu'on perde toute la magie qu'il peut y avoir dans l'univers graphique. Voilà. Mais bon, apparemment, c'est vraiment trop cher à faire. Donc, j'ai fini par abandonner cette piste-là aussi.
Alors, chaque soir, nous demandons à nos invités de choisir un son. Et en ce qui vous concerne, Régis Loisel, voici ce que vous avez choisi.
J'apparaîtrai chaque soir à 7h. Avant de disparaître, je devrais vous poser une question. Toujours la même.
Quelle est cette question ?
Belle, voulez-vous être ma femme ?
Non, la bête.
Identification du son, Régis Loisel.
Ah ben c'est exactement ce morceau que j'avais choisi. Je ne me rappelais plus parce qu'on m'a demandé ça comme ça en me disant ben, je sais qu'il y a une histoire de... Moi, c'était plus l'image et à la fois la voix de
Jean Marais.
De Jean Marais. Et puis, c'était La Belle et la Bête.
De Jean Cocteau.
De Jean Cocteau. Et ça, c'est un film qui m'a vraiment marqué durant l'enfance. Et j'ai eu l'occasion de le revoir à maintes reprises. Et j'avais toujours la même sensation. Et pour ce passage-là, j'avais toujours quelque chose qui se dressait en moi. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait-là.
Et de votre côté, Jean-Louis Tripp, voici ce que vous avez choisi.
There used to be a grey tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen.
Alors, quelle est l'histoire de ce son, Jean-Louis Tripp ? De quoi s'agit-il ?
C'est plus musical que le mien.
C'est-à-dire que j'avais pas du tout prévu qu'il allait falloir que j'en parle, parce que c'est très, très personnel.
Je peux imaginer.
Non, c'est une musique sur laquelle je danse régulièrement. Voilà, non, c'est très personnel. Il y a une personne qui se reconnaîtra en tous les cas.
On va revenir un petit peu en arrière, Régis Loisel. Vous avez suivi des cours à l'université expérimentale de Vincennes. C'était au début des années 70. Vous allez notamment y suivre les cours de Jean-Claude Mézières, le père de Valérian, la BD culte de SF. Quel a été le principal apport de son enseignement ?
C'est-à-dire que ce n'est pas réellement des cours. Hein. C'est des dessinateurs qui proposent, qui amènent leurs planches. Et puis, vous avez le maître. Donc, à ce moment-là, c'était Jean-Claude Mézières qui disait ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Il faisait des sortes de corrections, de propositions. Voilà. Donc, ce n'était pas des cours vraiment carrés. Je ne sais pas, on était une cinquantaine là-dedans. Il y en avait qui venaient pour fumer des pétards, d'autres pour regarder les uns et les autres. Voilà. Mais l'apport que j'ai eu, évidemment, c'est que Jean-Claude m'a fait rencontrer... Serge Le Tendre, qui lui assistait au cours, qui lui...
Fumait des pétards.
avait des prétentions de dessinateur. Et en fait, Mézières avait bien vu qu'il n'était pas très très bon pour le dessin. Mais par contre, il avait des idées. Donc il nous a mis en contact et ça a fait la quête de l'oiseau du temps.
Et comment vous êtes formé, Jean-Louis Tripp ?
Alors moi, j'ai décidé très très tôt que je voulais faire de la bande dessinée. J'avais 16 ans à peu près, j'étais en première à Toulouse, au lycée Raymond de Nave. Et puis à partir du moment où j'ai eu décidé que c'était ça, je n'ai plus fait que ça. Donc j'ai dessiné avec acharnement pendant tous mes cours. J'ai eu en cours d'allemand une appréciation sur mon livret scolaire qui était « A fait des progrès en dessin ». Je suis très fier, rétrospectivement. Et ensuite, j'ai quand même eu mon bac, miraculeusement, mais je suis monté à Paris où j'ai fait l'atelier Made Penningen. Ouais. Et puis, j'ai fait ça pendant un an. Et ensuite, je suis rentré au métier d'art. Et là, je me suis ennuyé profondément parce qu'au métier d'art, ce n'était pas du tout le même niveau en première année que ce que je faisais à Penningen l'année précédente. Et à ce moment-là, j'étais ami avec Serge Clerc. Qui avait un an de plus que moi, enfin il a toujours un an de plus que moi, et lui venait d'arriver à Paris depuis son Roanne natal pour travailler à Metal Hurlant. Et on dessinait souvent chez moi tous les deux, et il m'a dit mais fais des planches et puis je vais t'amener à Metal. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc j'ai commencé à faire des planches vraiment de BD à partir du mois de octobre-novembre 1976. Et ma première planche a été prise en janvier 1977 à Metal. Donc voilà, publiée en mars et j'ai dessiné à Metal pendant un an après.
Benoît, vous évoquiez tout à l'heure la sculpture. Quel type d'œuvre vous concevez?
Alors, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, hein, honnêtement. Depuis que j'ai recommencé à faire de la bande dessinée, donc il y a maintenant, je ne sais plus combien, 12, 13 ans, quelque chose comme ça, je n'ai plus du tout fait de sculpture parce que je n'arrive pas à faire les deux à la fois. Mais c'est vrai que j'ai commencé par faire des petites sculptures qui étaient des assemblages de petits bouts de métal, de bois, de tout ce qui me tombait sous la main, des petits amalgames comme ça, qui étaient figuratives. C'était des corps en mouvement, beaucoup. Et puis, ensuite, j'ai fait une série sur la tauromachie dans les années 80, au début des années 90. Et puis, j'ai commencé à avoir j'ai eu une première commande publique. Donc là, ça a été une espèce d'assemblage de béton cellulaire, de mosaïque, de métal, qui a d'ailleurs extrêmement mal vieilli, mais entre autres parce qu'elle n'a pas été entretenue. Et puis ensuite, j'ai
fait... Tu étais placé où ?
À Montauban. On va parler d'autre chose parce que c'est un
dossier... Sur un rond-point près de l'hôpital.
C'est un dossier pénible pour moi. Ensuite, j'ai eu une autre commande. Alors là, j'ai commencé à travailler le métal. Et donc après, j'ai fait des sculptures en métal soudées. Puis là, j'ai eu une deuxième commande publique aussi, toujours Montauban. Il faut dire que c'est ma ville natale.
Oui, non, mais on avait bien compris. on s'en est douté au bout d'un moment.
Et puis, donc voilà, j'ai adoré travailler le métal, vraiment. J'ai fait des meubles aussi, beaucoup en métal et bois.
Régis Loisel, pendant l'émission, vous avez évoqué deux ou trois reprises votre grande œuvre qui a été Peter Pan. Votre idée était d'imaginer une autre trajectoire au personnage de James Matthew Barry. En quoi votre relecture devait-elle être l'opposé de Disney? Parce que votre travail, c'est ça, c'est toujours prendre quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, mais d'en imaginer autre chose.
Bah, pour Peter Pan, c'était facile. Hein, lorsque vous voyez le film de Disney, vous dites, bon, bah, c'est adapté d'un roman, donc on va lire le roman et on va voir de quoi ça parle. Et moi, ce qui m'intéressait, même avant de lire le roman, c'était de raconter l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Peter et qui va devenir Peter Pan. Donc de raconter l'origine ou la genèse de ce personnage. Donc voilà, évidemment, alors à partir de là, tout est possible. Donc j'ai pris vraiment le contre-pied de Disney, et puis ça a fait ce que ça a fait, quoi. Donc c'est une histoire tragique, absolument pas pour les gamins, et voilà.
Vous avez été déçu, je crois, quand vous avez lu pour la première fois Peter Pan.
Oui, lorsque
j'ai lu. Qu'est-ce qui vous a déçu ?
Ben je sais pas, je m'attendais à un récit épique. Avec un rythme soutenu, comme on voit d'ailleurs dans le dessin animé de Disney. Et donc, en fait, c'était simplement des petites anecdotes, des petits trucs. Peter Pan fait ceci, puis il pense cela. Il n'y avait vraiment pas réellement d'histoire comme ça, où on tourne les pages en disant wow, « qu'est-ce qui va se passer ?» Voilà, c'était des petites scénettes. Donc, j'étais un petit peu déçu, mais j'ai quand même récupéré des choses intéressantes, à savoir que Peter Pan avait un petit côté trouble. Et ça, j'avais évidemment déjà dans mon idée, il était pas tout à fait net, il était à la limite du psychopathe, mais donc ça m'a rassuré. Je me suis dit, tiens, ça c'est un truc qu'il faut que j'exploite.
J'ai fait des livres pour enfants dans le passé dans lequel je dessinais des animaux, ils étaient toujours habillés. Non, je déteste ça, les animaux.
Moi, ce sont les pieds et les chaussures. Je déteste ça.
Merci à nos invités, Régis Loisel et Jean-Louis Tripp. Le dernier tome de Magasin Général a paru aux éditions Casterman et l'album Univers Nino est disponible sous le label Crystal Records Harmonia Mundi. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain...
Un couple vit nu dans le bonheur sans mourir.
Demain, paradis et intimité avec Alain Cavalier et Annie Ernaux. La désannonce, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Aïssatou Endoy et Hippolyte Babilote. Journal de la culture, Émilie Chaudet. Merci aux équipes techniques de France Culture pour la prise de son et à la réalisation, Thomas Beau. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours ou la podcaster sur franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture. Oh, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre sur France 5.